En République démocratique du Congo, aussitôt arrivés à Kiwanja, dans la commune rurale de Rutshuru, les casques bleus de la MONUSCO, chassés de la ville de Butembo, ont été bloqués par les habitants en colère, les empêchant d'entrer dans la région. Un membre de Lucha, joint donc par un média congolais qui a livré l'information, indique que c'était aux environs de 21h, donc déjà le 25 août, que les habitants ont vu les éléments de la MONUSCO chassés de la ville de Butembo entrer dans l'agglomération de Kiwanja. Forcément, alors donc qu'une journée ville morte était déjà prévue ce vendredi pour exiger le retrait immédiat des casques bleus de la MONUSCO. À ce moment-là, les tirs ont commencé, blessant ainsi deux personnes civiles qui suivent donc les soins médicaux dans les structures sanitaires proches. François Kamate, le chargé de la communication de Lucha, précise que la population ne veut plus également voir les casques bleus venus de Butembo s'installer à Kiwanja. Nous avons décrété la journée ville morte ce vendredi pour exiger trois choses. Demander le retrait pur et simple des casques bleus encore présents sur le sol congolais car ils sont inefficaces. Et nous nous sommes insurgés contre l'arrivée des éléments de la MONUSCO délocalisés de Butembo vers Kiwanja. C'est une provocation. Butembo, c'est en RDC comme à Kiwanja. Ils devaient quitter Butembo vers leur pays d'origine. Nous ne voulons plus voir même leurs hélicoptères survoler l'espace aérien. Nous demandons aussi aux autorités congolaises de mettre fin aux violences armées et ne pas organiser de dialogue avec le M23 appuyé par le Rwanda, dit ce communicateur de la Lucha. Pendant ce moment très tendu de la soirée, donc du jeudi, les forces de l'ordre sont intervenues pour calmer la situation. Les manifestants se sont réveillés donc vendredi pour poursuivre leurs actions anti-MONUSCO, exigeant toujours le retrait immédiat de ces éléments. Toutes les activités restent paralysées comme il était prévu, donc une journée ville morte. Et en rappel, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-général Dima Kongba, donc Constant, avait annoncé le retrait des troupes de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo de la ville de Butembo depuis les dernières manifestations populaires ayant occasionné donc plus de dizaines de morts côté civil. Il a fait savoir dans un point de presse tenu à Butembo le jeudi 18 août dernier. Selon le gouverneur militaire, des équipements et quelques membres du personnel de la MONUSCO encore présents, ville de Butembo seront évacués dans un climat apaisé sous un encadrement des forces de défense et de sécurité. L'ONU n'a pas encore compris le message des Congolais, visiblement. Quitter le territoire de la RDC ne veut pas dire se redéployer ailleurs dans le pays. Partout où ils mettront les pieds, les Congolais seront là pour leur montrer la porte de sortie. Après 20 ans de présence et autant de moyens mis à leur disposition, si la MONUSCO pouvait faire quelque chose, elle l'aurait déjà fait. Jusqu'à présent, la seule chose que cette instance internationale a réussi à faire, à l'instar de ses collègues français et américains, c'est d'amplifier l'insécurité dans la région de l'Est de la RDC et de multiplier les groupes armés et non les éradiquer. Les Congolais se demandent toujours ce que fait l'ONU en RDC, mais ils ne cherchent même plus à comprendre. Ils veulent le départ immédiat de cette instance, de son territoire, et que Kinshasa noue enfin des liens avec des partenaires sérieux comme l'Iran, la Russie ou encore la Chine, afin que la sécurité revienne sur le territoire congolais. Pendant son séjour en Algérie, Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes. Il a notamment affirmé que la relation entre Alger et Paris était une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Lors de son voyage en Algérie, Emmanuel Macron a tenté d'aborder tous les sujets qu'il voulait initialement éviter. Devant les caméras des journalistes, il a été obligé d'évoquer l'immigration clandestine, la situation au Mali, la crise gazière ou encore le conflit russo-ukrainien. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel le président français était attendu, c'est celui de l'histoire. On se souvient en effet que lors d'un dîner le 30 septembre 2021, Macron avait déclaré que l'Algérie s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Selon le président de la République française, l'histoire officielle de la colonisation et de la guerre d'Algérie a été totalement réécrite. On était alors loin de la déclaration d'Emmanuel Macron, alors simple candidat en 2017. En visite en Algérie, il avait estimé que la colonisation était un crime contre l'humanité. Lors de son premier mandat, il avait pourtant commandé un rapport à l'historien Benjamin Stora sur la colonisation française en Algérie. Si le rapport avait attiré son lot de critiques, la presse algérienne avait salué le courage d'un jeune président de faire un travail mémoriel que peu de présidents avant lui avaient osé faire. « Je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie, mais le Emmanuel Macron du deuxième mandat est bien loin de celui du premier, encore plus de l'avant-présidentiel de 2017. » Interrogé ce vendredi sur cette question, le président français s'est même allé à une comparaison étonnante sur la relation entre Paris et Alger. « C'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique », a-t-il affirmé. Sur la question mémorielle, a poursuivi le président français, nous sommes sommés de choisir entre fierté et repentance, et je veux la vérité et la reconnaissance. Comme pour se dédouaner de ses propos maladroits, le président a rapidement rappelé qu'il n'était pas un enfant de la guerre d'Algérie. Avant de nuancer, il ne faut pas laisser n'importe quelle parole se dire, on n'a pas de leçons à donner, ce n'est pas passé chez nous, il y a beaucoup de manipulation. Une colonisation qui n'est pourtant reconnue nulle part dans les pays occidentaux. Le sujet est encore tabou et les maladresses ou provocations du président français ne font qu'empirer la situation. Une histoire d'amour qui a dû tragique. Certes, peut-être que c'est le cas dans le couple présidentiel français, mais ce n'est pas du tout le cas concernant le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité avec plus d'une centaine de millions de morts froidement assassinés, réduits à l'état d'esclavage avec toutes les humiliations et les traitements inhumains qui s'en suivent. Bref, les paroles ne diffèrent pas des masses, donc des anciens présidents français qui dénigrent ou qui veulent absolument réduire donc ces 400 ans à un simple détail de l'histoire. Mais l'important, ce n'est pas ce que dit Macron concernant l'Algérie ou même l'entièreté du continent africain et son histoire, mais c'est bien ce que pense et ce qu'affirme le peuple africain et personne d'autre. Au Mali, les accusations contre Paris se précisent. Le Mali donc accuse Paris de violer son espace aérien et d'appuyer les terroristes, alors que Paris dément catégoriquement et considère cela comme étant une humiliation lancée à ses 59 petits soldats morts pour, soi-disant, défendre ce pays. Le retrait du dernier soldat français du territoire malien le 15 août ne signifiait pas la fin de la crise entre Paris et Bamako, mais plutôt le début d'une nouvelle crise diplomatique après que le pays africain a accusé les forces françaises donc de violer son espace aérien, voire même de l'espionner et de soutenir le terrorisme. Et le Mali est allé encore plus loin en invitant donc le Conseil de sécurité à tenir une réunion d'urgence destinée à examiner les violations françaises à répétition de son espace aérien et pour amener la France à suspendre immédiatement ses actes hostiles. Le ministère malien des Affaires étrangères avait évoqué dans un message adressé aux Nations Unies détenir des preuves crédibles qui attestent la remise par la France d'armes, de munitions et de renseignements à des groupes terroristes dont l'identité n'a pas été déclinée. Toutefois, la correspondance adressée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop à la présidence chinoise du Conseil de sécurité comportait les noms de deux dirigeants, Ibrahim Agbahanga et Abu Talha. Le chef de la diplomatie malienne a indiqué qu'un hélicoptère appartenant à l'opération Barkhane a acheminé les 6 et 7 août courants les deux hommes de la forêt de Ogrich dans la ville de Goundam, située dans la région de Tombouctou, à une destination inconnue. Diop n'a pas précisé à quel groupe armé appartiendraient donc Bahanga et Abu Talha, bien que selon certaines sources, le premier soit issu du groupe rebelle des Azawad du nord du pays ou à l'organisation Ansar ed-Din dirigée par Riyad Aghali. Quant à Abu Talha, l'individu le plus connu sous le pseudonyme donc Abu Talha al-Mauritani, un dirigeant d'Al-Qaïda. Néanmoins, le 7 août, soit le même jour, qui a vu le Mali donc accuser l'opération française Barkhane de transférer Bahanga et Abu Talha à bord d'un hélicoptère, l'armée malienne avait diffusé un communiqué pour annoncer avoir documenté des opérations secrètes et non coordonnées qui attestent que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'expertise extérieure. Cette déclaration est intervenue après que des attaques simultanées attribuées à Daesh dans le triangle transfrontalier Niger-Mali-Burkina Faso avaient fait 42 morts et de nombreux blessés parmi les soldats maliens. Le mois précédent, ce sont 66 morts au moins, dont les soldats donc, et des civils qui ont péri dans des attaques simultanées lancées par la Katiba Massina et revendiquées donc par les terroristes du JNIM, dont la plus grave avait ciblé la base militaire stratégique de Kati, cœur de l'appareil militaire et siège de la résidence du président malien, le colonel Assimi Goïta. L'état-major des armées maliennes a indiqué que cette attaque était liée à des parties étrangères. En effet, les groupes liés à Al-Qaïda et à Daesh avaient lancé, en l'espace de moins de 2 semaines, des attaques simultanées et inédites depuis 2012, faisant un grand nombre de morts, concomitamment avec le retrait du dernier soldat français. Après l'évocation donc de la réception par les groupes terroristes d'un appui de parties extérieures en faisant allusion à la France, l'accusation est donc devenue aujourd'hui directe. Le Mali est même allé jusqu'à demander au Conseil de sécurité d'intervenir pour examiner les preuves collectées par Bamako au sujet des violations flagrantes de l'espace aérien malien utilisé par Paris pour collecter des informations et des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel et pour leur faire acheminer des armes et des munitions selon la correspondance adressée par la diplomatie malienne aux Nations Unies. Plus grave encore, le Mali donc a menacé de porter son escalade du stade de la pression diplomatique à celui de la réaction militaire contre la France pour réagir à ces violations. En effet, Bamako a déclaré qu'il s'arroguait donc le droit de faire usage de l'autodéfense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'article en question dispose donc qu'aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Il s'agit donc ainsi d'une menace de cibler les hélicoptères et les avions de chasse français, ainsi que les drones en cas de violation de l'espace aérien malien. L'Élysée continue donc de nier ses liens avec les groupes terroristes, néanmoins, mais la France ne nie pas le fait qu'elle survole et viole l'espace aérien de ce pays. Car en effet, les relations entre les deux pays évoluent de mal en pis au vu de la décision du Mali de mettre un terme à l'opération Barkhane. Le Mali a considéré que Paris l'a lâché dans son combat contre les groupes terroristes et a décidé d'expulser également l'ambassadeur de France parallèlement à l'abrogation des traités de défense tout en réclamant le départ rapide des forces françaises de son territoire. La France avait annoncé le retrait de son dernier soldat du Mali donc d'ici la fin de cet été, mais il semble qu'elle avait hâté ce processus après des nombreuses manifestations organisées par des centaines de milliers de personnes, notamment à Gao le 14 août. Les protestataires donc avaient fixé aux forces françaises un ultimatum de 72 heures pour quitter définitivement leur ville en brandissant une série de slogans dont Barkhane, parrain et allié des groupes terroristes. Néanmoins, les soldats français n'ont pas attendu la fin de l'ultimatum et ont décidé de quitter la ville et le pays en moins de 24 heures. La France a décidé donc de transférer ses soldats établis au Mali, au Niger voisin. Quelques 3 000 soldats français de la force Barkhane seront déployés au Tchad et au Niger. Mais il convient de souligner également que la force Barkhane ne bénéficie pas vraiment d'un accueil populaire au Niger, à l'instar des autres pays de la région du Sahel. Les autorités de Niamey avaient d'ailleurs interdit une marche de protestation contre la présence des forces françaises dans leur pays, marche qui était initialement prévue le 17 août courant. Les autorités intérimaires conduites par Assimi Goïta se dirigent vers l'escalade avec la France pour dénoncer l'attitude néocoloniale de Paris et de ses alliés occidentaux sur le plan international, fortant cela par l'appui apporté donc par leur nouvel allié l'Iran et la Russie, qui a équipé notamment le Mali récemment de 5 avions de chasse et d'un hélicoptère militaire. Donc Moscou saisit donc que Paris s'emploie à user de toute son influence dans la région pour faire chuter le régime militaire actuellement en place à Bamako, et ce, par tous les moyens possibles. Ainsi, le conflit entre Goïta et Macron est un combat à travers lequel la France s'emploie à s'afficher en tant que puissance qui a son mot à dire dans l'ouest de l'Afrique, tandis que le gouvernement intérimaire malien tente de défendre la souveraineté du pays et même du continent, et de refuser tout diktat français qui rappellerait l'ère coloniale, ce qui accroît sa popularité et renforce sa position panafricaniste à travers le continent africain.
Des hommes armés ont mené des attaques dans la commune rurale de Kouka, province des Banois, dans la région de la boucle du Mouhoun. Ces actes, qui ont eu lieu dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 août, selon plusieurs sources, dont l'agence de presse de l'État AIB, ont fait d'énormes dégâts matériels. Les dernières informations font cas de destruction au niveau du commissariat de police, de la gendarmerie, de la mairie, de la préfecture. Les engins de l'entreprise TCR-GTI, chargés des travaux de bitumage, ont été incendiés. Les camions de l'entreprise chargés des travaux d'addiction d'eau dans une dizaine de villages, de même que les tuyauteries, ont été aussi touchés, lit-on sur le site de l'agence d'information du Burkina. Le confrère, citant ses sources, indique que les assaillants sont arrivés aux environs de 20 heures à bord d'un véhicule de transport communément appelé Dina. Cette attaque intervient quelques heures après l'attaque du convoi d'une société minière à l'est du pays, qui a fait 6 morts et 2 blessés. Le Niger expérimente depuis plusieurs jours la technique des pluies provoquées ou pluies artificielles, qui consiste à expédier des roquettes remplies d'iodure, d'argent ou d'azote liquide dans les nuages pour changer la phase des gouttelettes et faire tomber la pluie. L'annonce a été faite par le directeur de la météorologie nationale dans un entretien accordé à la télévision publique. Une équipe spéciale a été mise en place et au niveau de la direction de la météorologie nationale, avec pour mission de traquer au quotidien les nuages et de donner l'ordre de les ensemencer. Il a précisé que le recours à la technique de pluie provoquée a été ordonné par le président de la République, Mohamed Bazoum, en vue de faire face aux perturbations des saisons des pluies auxquelles le Niger fait face ces dernières années. C'est vrai que nous avons beaucoup de quantités de pluie qui provoquent même des inondations. Malheureusement, nous avons beaucoup de séquences sèches entre des jours de pluie et cela affecte le développement des cultures et du pâturage, a expliqué le directeur de la météorologie nationale. Les opérations de bombardement des nuages sont menées à partir de Zinder, dans le sud-ouest, où le président Bazoum passe ses vacances annuelles. Nigeria, à 3,5% au deuxième trimestre, le PIB poursuit sa croissance pour le septième trimestre consécutif. Après la profonde récession enregistrée en 2020 sous l'effet des chocs combinés de la COVID-19 et de la baisse des revenus pétroliers, l'économie nigériane poursuit son redressement pour le septième trimestre consécutif. Le produit intérieur brut du Nigeria a progressé de 3,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2022, enregistrant sa septième évolution trimestrielle positive, a annoncé l'Office national des statistiques dans un rapport publié ce vendredi 26 août. Cette progression est en légère hausse par rapport au premier trimestre 2022, lorsque le PIB du pays le plus peuplé d'Afrique a augmenté de 3,1%. La hausse du PIB enregistrée entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours découle essentiellement d'une croissance réelle de 4,8% du secteur non pétrolier. En revanche, le secteur pétrolier s'est contracté de 12%. La production de pétrole a chuté à 1,43 million de barils par jour au deuxième trimestre contre 1,49 million de barils au cours du trimestre précédent, en raison notamment des vols de brut. La faible production d'états financiers certifiés résulte notamment d'une volonté de conserver la confidentialité de l'information produite, des délais de publication courts et des difficultés de regroupement des données. Avec le soutien de la Banque mondiale, le Cameroun veut établir le système Initiative à résultats rapides en vue d'obliger les entreprises publiques à transmettre et publier des données financières fiables. Le projet d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique et du système statistique placé sous tutelle du ministère de l'Économie est financé par la Banque mondiale à hauteur de 17,38 milliards FCFA vient de publier un appel de manifestation d'intérêt en vue de recruter des consultants qui vont mettre en place des initiatives à résultats rapides IRR dans 14 entreprises pilotes. Les soumissaires doivent déposer leur candidature au plus tard à la mi-septembre 2022.